Nous avons commencé dimanche dernier l'étude de la vie ou du cycle du prophète Élie. Et je vous invite donc à lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, les 9 premiers versets. Un roi, les versets 1 à 9. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Pars d'ici, en direction de l'est, cache-toi, près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Élie partit, se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie et lui dit, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon, installe-toi là, car j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Jusqu'ici, notre lecture. Nous avons assisté dimanche dernier à l'irruption soudaine d'Élie sur les devants de la scène. Sans prévenir, nous l'avons vu se présenter devant le roi Akab, infidèle à Dieu, mais se présenter devant ce roi avec une parole forte. Le Seigneur l'Éternel est vivant, il n'y aura plus ces années-ci de rosée ni de pluie, sinon à ma parole. Un coup de tonnerre inattendu. Un coup de pied dans la fourmilière aussi, d'une certaine façon. Car Israël s'installe dans une vie sans Dieu, le Seigneur se rappelle à son peuple comme le Dieu vivant. Israël cherche la sécurité matérielle et les pluies en s'attachant au Dieu Baal, et voilà qu'Élie annonce une sécheresse, un vrai défi au pouvoir supposé de ce Dieu Baal. Ce défi, nous l'avons vu, se fonde sur l'alliance établi autrefois entre Dieu et son peuple. Cette alliance disait que si Israël se détournait du Seigneur, le pays serait, pourrait être puni par la sécheresse. Et Élie, serviteur de Dieu, sur les bases de cette parole de l'alliance, a prié avec ferveur que Dieu agisse selon ce qu'il avait dit. Et c'est dans ce sens qu'il jette ce défi à Akab. Les murs du palais d'Akab résonnent encore de sa menace que déjà, Élie n'est plus là. Voilà en tout cas Élie en train de devenir l'homme le plus impopulaire de tout le royaume. Alors défier un roi, défier un pouvoir, cela attire pas mal de sympathie. Mais perturber l'enseignement programmé et tranquille des gens, alors ça c'est autre chose. Mettre en danger les récoltes d'un peuple, sa survie éventuelle, là, c'est se placer du côté des personnages, des personnes non grata. Élie s'est placé sur un terrain où il risque de concentrer contre lui toutes les hostilités. Il risque, avec l'arrivée des contraintes de la sécheresse, de devenir non un héros, mais un bouc émissaire. Et nous lisons, la parole du Seigneur fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. » On s'est interrogé sur les raisons de l'ordre du Seigneur. Pourquoi demander à son vaillant porte-parole de se mettre à l'écart? Le but premier est à l'évidence, et c'est dit, de protéger Élie, d'assurer sa sécurité. « Cache-toi, » dit le Seigneur. Et j'aimerais juste relever qu'on peut apprécier ici le fait que ce soit Dieu qui prenne l'initiative de dire à Élie, pars et cache-toi. Cela libère Élie d'un lourd fardeau. Ce n'est pas facile, en effet, à quelqu'un qui veut être fidèle à Dieu, de devoir choisir de se cacher. C'est quand même pas facile de décider cela. Est-ce qu'on n'est pas en train de trahir ce pourquoi on a pris position si fort? Est-ce que la fidélité n'est pas dans le toujours plus d'engagement, toujours plus de défis à relever? Dieu, dans sa grâce ici, a l'initiative d'une parole pour mettre la limite. Et je pense à un autre cas où Dieu agit d'une manière un peu semblable et où il prend sur lui en quelque sorte une décision qui était très difficile à prendre. Vous vous souvenez que lorsque Noé a construit son arche, il y a eu tout un temps où les gens ont pu rentrer. Il y a un moment de fermer la porte. Qui osait prendre cette décision? Dieu a eu la grâce de prendre lui cette décision et de ne pas dire à Noé, c'est toi qui fermes la porte. Et je crois que c'est utile pour nous de nous rappeler que nous pouvons compter sur Dieu dans nos décisions difficiles. Il ne nous abandonnera pas à nous-mêmes. Il saura, là où c'est nécessaire, faire aussi sa part d'une certaine façon, orienter clairement les circonstances ou nous donner une indication par sa parole ou un repère ou un apaisement qui nous permette d'être en paix dans des situations où autrement ce serait difficile de prendre des décisions de ce type-là. Et autant nous avons besoin d'assumer le fait que Dieu nous dise « choisis » et que Dieu nous invite à être en toute responsabilité des décideurs devant lui, autant il est bon aussi de nous souvenir qu'il est légitime d'attendre que ce soit Dieu qui, à un moment ou à un autre, nous fasse comprendre que nous pouvons en effet marcher dans telle ligne ou dans telle autre. Le Seigneur nous accompagne jusque dans ces décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre. Protégez donc Élie, une première raison de cet ordre, va et cache-toi. Mais il semble qu'il y a une autre raison à cette parole, et cette fois-ci, elle concerne le peuple d'Israël. Il s'agit clairement de mettre le peuple d'Israël face à ses responsabilités. L'annonce de la sécheresse a été faite publiquement dans le palais d'Akab, et nul doute que cette parole d'Élie, elle a couru tout le royaume ensuite. Et cette parole invitait à se positionner par rapport à Dieu, le Dieu vivant. Le Seigneur est vivant. Il n'y aura pas de pluie si on continue à se détourner de lui. Si Israël revient à son Seigneur, tout peut changer. Dieu a déjà montré dans l'histoire, dans les temps passés, qu'il est lent à la colère, riche en bonté, qu'il sait revenir sur une menace. Et d'ailleurs, les paroles mêmes de l'Alliance qui disent si les menaces, si on s'éloigne de lui, soulignent que il est toujours possible de revenir à Dieu. Et après les menaces qui ont servi de base à Élie pour sa prière et pour ce défi, il est dit dans le Deutéronome, « Si tu reviens au Seigneur ton Dieu, si tu lui obéis, le Seigneur prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. » Donc Dieu sait revenir, Dieu sait appeler par ses menaces. Et la parole prononcée par Élie est aussi une invitation pour le peuple à revenir à Dieu, et tout autant qu'une menace. Et il me semble qu'en cachant Élie, loin du peuple, le Seigneur place Israël face à cette parole et elle seule. Elle devient l'unique repère donné par Dieu à son peuple alors que la sécheresse va venir et s'accentuer. Elle deviendra une sorte de vis-à-vis, cette parole, par rapport auquel il faudra se positionner. Le Seigneur ne veut pas que ce soit Élie qui soit au centre du débat, parce que ce serait trop facile. Au moment où la sécheresse se ferait sentir, on disait « c'est la faute d'Élie ». Ce n'est pas cela. Le Seigneur voulait que le peuple soit en face de sa parole et réfléchisse lui-même en face de cette parole. Et c'est pourquoi le Seigneur cache Élie. Le seul repère qu'il laisse, c'est la parole prononcée par le prophète et qui doit demeurer en face d'Israël pour lui rappeler sa responsabilité face au Seigneur, face à son alliance. Et nous sommes invités, nous aussi, à conserver, à garder ce vis-à-vis responsable face à Dieu et sa parole. C'est vrai pour nous aussi. Jacques nous invite à laisser cette parole devenir comme un miroir pour que nous nous y voyions et pour que nous la mettions vraiment en pratique sans nous tromper par toutes sortes de faux raisonnements. Et c'est si facile d'avoir recours à toutes sortes d'échappatoires lorsque Dieu veut nous parler. Lorsque Dieu nous reprend, comme il le fait là pour Israël, de dire « oui, d'accord, je sais, mais un tel fait pire. Et pourquoi ce serait à moi de faire le premier pas? Et pourquoi je changerais si les autres ne changent pas, si l'Église ne change pas, etc. etc. » Gardons une attitude honnête, ouverte devant Dieu et sa parole. Plongeons les regards dans cette parole qui veut être pour nous un miroir et ne tournons pas la tête pour nous dire c'est pour lui ou c'est pour elle. Laissons le Seigneur nous reprendre, nous interpeller, nous pousser plus loin. Et si nous avons vraiment le sentiment que Dieu, dans sa parole, à un moment donné, nous demande quelque chose, ou nous reprend, ou nous interpelle, assumons-le, prions, agissons de manière responsable. C'est le seul moyen par lequel nous pourrons grandir, c'est le seul moyen par lequel nous pourrons vivre ce que Dieu a en réserve pour nous. Si tu reviens au Seigneur ton Dieu, si tu lui obéis, le Seigneur prendra de nouveau plaisir à toi. Disait, et à ton bonheur, disait le texte du Deutéronome. C'est l'enjeu pour Israël autrefois, cela reste un enjeu pour nous aujourd'hui. Voilà pour les raisons, me semble-t-il, du fait qu'Élie soit caché. Ceci dit, pour lui, cette mise au secret, nécessaire pour sa sécurité, nécessaire pour responsabiliser Israël, va entraîner un long temps d'isolement et de solitude. Dieu l'invite à se cacher dans des contrées qu'il connaît bien, à l'est du Jourdain, c'est là sa région d'origine. Mais il doit être coupé de tout, coupé de tous. Personne ne doit savoir où il se trouve. Dieu lui indique une vallée où coule un torrent, le Kérit. C'est là qu'Élie est appelé à construire sa cabane et à vivre de longs mois en ermite. Il ne saura rien de ce qui se passe en Israël et personne ne saura rien de lui. Au moment où il l'envoie, le Seigneur a une autre parole, pleine d'attention pour lui. Il lui parle aussi de ce dont Élie aura besoin pour survivre, de ce qu'Élie pourra boire, manger. Et le Seigneur lui annonce qu'il y aura des ressources naturelles, tu boiras l'eau du torrent, et il promet aussi à Élie qu'il pourvoira pour le reste. Au corbeau, dit le Seigneur, j'ai ordonné de te nourrir là. J'aimerais juste relever ici la bonté pleine d'attention du Seigneur. Il n'envoie pas Élie en lui disant « Va, cache-toi et débrouille-toi ». Il accompagne son serviteur fidèle. Il ne lui dit pas « Aie confiance, tout ira bien ». Il lui donne des repères, il lui donne des assurances. Et surtout, il montre à Élie qu'il a vraiment le souci de lui, qu'il a le souci de ses besoins, qu'il a le souci de ce dont Élie vivra. Et ça, c'est quelque chose de tellement bienfaisant. Dieu peut permettre pour nous aussi des passages exigeants, comme certainement cette mise à l'écart ne devait pas être très facile pour Élie. Il peut permettre dans notre vie de tels passages, mais il garde le souci de nous, tout comme très concrètement, il le fait là pour Élie. Il connaît parfaitement les besoins réels qui sont les nôtres et il les prend en compte. Et c'est intéressant de voir que ce n'est pas parce qu'il est Dieu que Dieu spiritualise tout. Dieu sait que la faim, la soif, ça fait partie des choses vitales pour nous et des vraies réalités humaines. Et il a soin de dire à Élie, je veux veiller sur cela. Et nous nous souvenons que dans le Notre Père aussi, nous sommes invités à demander notre pain de ce jour. Et cette demande du pain de ce jour précède même la demande du pardon. Et la demande de la victoire sur le mal et sur la tentation. Alors, toutes les demandes sont importantes, mais juste, le Seigneur qui veut nous inviter au pardon, à la réconciliation, à toutes ces grandes choses, le Seigneur n'oublie pas non plus, pour autant, nos autres besoins. Le pain de chaque jour dont nous avons besoin, la force pour mener à bien ce qu'il faut faire aujourd'hui, les ressources pour ce que nous avons à faire et à être. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, nous dit l'apôtre Pierre, car Dieu prend soin de vous. Et on le voit ici dans cette parole qui est adressée à Élie. Et pour prendre soin d'Élie, le Seigneur dispose et l'annonce de deux types de ressources. Il y aura les ressources naturelles de sa création et il y aura des ressources surnaturelles qu'il mettra en œuvre par son propre pouvoir. La ressource naturelle, c'est le torrent de Kérit. Ce torrent n'a pas été créé spécialement pour Élie. Il existait avant et il a continué à exister après Élie. Un tel torrent est alimenté par des eaux d'infiltration et il possède ainsi des réserves qui sont capables de ne pas s'épuiser au moindre coup de chaleur. Et ça nous rappelle que le Seigneur a mis dans sa création un certain nombre de réserves et de ressources de stabilité, un certain nombre de réserves et de ressources de réparation et de renouvellement. Un torrent, un glacier, ça permet, ça a pour fonction d'absorber un pic de chaleur ou de sécheresse pour qu'on ne manque pas d'eau tout de suite parce qu'il y a des réserves qui sont là. Et Dieu a placé ce genre de choses dans sa création véritablement. Et Dieu nous montre ici qu'il se sert de ce genre de moyens qu'il a placé en avance dans sa création pour prendre soin de nous. C'est ce qui se passe ici pour Élie avec ce torrent qui n'est pas, qui peut garder de l'eau même si la sécheresse commence à se faire sentir. C'est dans cette même ligne que s'inscrit pour nous aujourd'hui, par exemple, le recours à la médecine. La médecine, elle aussi, met en œuvre les moyens et les ressources que Dieu a placés dans sa création, que Dieu a déposés dans sa création. Et le Seigneur ici dit à Élie, tu boiras l'eau du torrent. Il ne dit pas, je ferai jaillir l'eau du rocher comme il l'avait fait dans le désert. Non, tu boiras l'eau du torrent. Tu peux utiliser les ressources que j'ai déjà placées dans ma création. Ça, c'est une première série de ressources. Mais pour prendre soin de nous, le Seigneur a encore bien d'autres réserves, d'autres ressources. Et là, c'est ce qu'il promet aussi à Élie en disant, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Qui aurait imaginé cela? Que des corbeaux puissent nourrir un homme? Pourtant, c'est ce que Dieu fait. Et une fois qu'Élie se trouve seul au bord du torrent, voilà qu'il découvre quelque part, non loin de là, un endroit où des corbeaux déposent régulièrement des bouts de viande arrachés à un animal qui vient de mourir. Il peut les faire cuire, ces morceaux de viande, peut s'en nourrir. Autre surprise, des morceaux de pain s'ajoutent régulièrement. Apparemment, les corbeaux doivent se servir quelque part dans un village, dans une maison. Alors, je ne peux pas vous donner d'explication particulière, mais j'aimerais juste relever le langage du Seigneur. J'ai ordonné au corbeau, dit-il, de te nourrir. Le Seigneur créateur de l'univers reste maître de sa création. Il sait agir à bien des endroits sur sa création. Il sait agir sur l'intelligence la plus vive pour l'orienter. Il est dit, par exemple, dans les Proverbes, que l'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige là où il veut. Donc le Seigneur a la capacité d'orienter l'esprit des gens les plus intelligents. Et là aussi, comme ici, la capacité d'orienter l'instinct d'un oiseau pour qu'il amène au lieu voulu la nourriture qu'il aura trouvée. Il part de ce que savent faire les corbeaux, qui sont un peu des charognards d'une certaine façon, mais ils guident et orientent leur action pour que Élie puisse en bénéficier. Alors on aurait pu imaginer d'autres moyens, un peu moins surprenants. On aurait pu imaginer par exemple un chien qui se serait pris d'affection pour Élie et qui l'aurait ramené régulièrement un peu de quoi manger. Ça aurait été un peu moins surprenant. Vous savez, un peu comme dans le film Danse avec les loups. Mais un chien aurait fait découvrir Élie en venant régulièrement. On aurait pu suivre le chien. Et nous voyons ici que le Seigneur n'est pas à court de moyens. Les corbeaux peuvent jouer le même rôle sans que personne ne s'en doute. Et c'est cela ce que le Seigneur veut enseigner ici. Ce texte veut nous dire, Dieu n'est pas à court de moyens. Dans sa souveraineté, il a 1000 ressources à mettre en œuvre pour que vraiment il puisse prendre soin de nous. Que ce soit habituel ou totalement inédit, que ça suive le cours normal des choses ou que cela le bouleverse, que cela corresponde à ce qu'on imagine possible de Dieu ou pas. Et on relèvera ici que les corbeaux, qui étaient des charognards, étaient des animaux qui étaient considérés comme rituellement impurs. Un Israélite n'avait pas le droit de manger du corbeau. N'empêche qu'ils peuvent être utilisés pour faire du bien à Élie. Jésus avait ce même regard de confiance dans les ressources de son Père. Il nous invite à considérer la façon dont notre Père céleste nourrit les oiseaux du ciel, dont il habille les fleurs des champs. Et il nous dit, mais ayez confiance dans votre Père Céleste. Il a toutes ces ressources-là et vous valez bien plus qu'eux. C'est donc une leçon de confiance qui nous est donnée ici. Attendons-nous aux ressources du Seigneur. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, dit le texte, littéralement. Et j'aime ce petit mot là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ce petit mot termine la phrase. Le Seigneur sait où nous marchons. Il sait que ce n'est pas forcément évident d'être là tout seul comme un ermite à l'écart. Mais il a ordonné que là, quelque chose se fasse en faveur de nous. Et ça nous rappelle que Dieu sait ce que nous devons traverser. Mais c'est précisément là où nous sommes. C'est pour là où nous sommes appelés à marcher qu'il a des ressources envers nous. Pensons-y donc, là où nous nous trouvons aujourd'hui, là où nous nous trouverons demain. Le Seigneur a ses ressources pour nous, là, à cet endroit. Comment Élie sera-t-il mis au bénéfice de ces ressources de Dieu? Le verset 5 nous le dit, « Élie, à la parole du Seigneur, partit et se conforma à la parole du Seigneur. » C'est l'obéissance qui permet de découvrir ce que Dieu a en réserve pour nous. Et ici, il faut aussi le recueillir dans ce texte, c'est en nous engageant sur des chemins de soumission, sur des chemins d'attachement à Dieu, que nous pourrons découvrir pleinement ses ressources en notre faveur. Voilà donc Élie qui s'installe au bord du torrent de Kérit. Le voilà isolé de tout. Il ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Il ne sait pas, entre autres, qu'Akab est en train de le faire rechercher partout en Israël, comme dans tous les pays. Il ne sait pas non plus comment les choses évoluent suite à sa prière, si le peuple revient à Dieu ou si au contraire il s'endurcit. Élie est protégé, mais il est isolé. Et cela dure certainement plusieurs mois, une année entière au moins probablement. Quelles sont ses sécurités? Il y a un torrent et ce qu'il trouve chaque jour apporté par les corbeaux. Quels sont ses vis-à-vis? La moindre présence devient certainement dans ces circonstances-là un événement. La moindre régularité devient très certainement un repère. Tel oiseau qui chante le matin, tel autre oiseau qui chante le soir. Mais dans de telles solitudes, il est certain que le Seigneur aussi se fait plus proche. Il est certain que quand on est ainsi isolé de tout, la présence du Seigneur, on s'y ouvre plus. Sa présence devient plus sensible, devient certainement beaucoup plus indispensable. Et il devient certainement l'unique, celui sans lequel on n'est plus rien, celui sans lequel on n'a plus personne. On dépend de lui totalement. On parle plus longtemps, certainement. On développe une intimité, un dialogue constant. Et en réponse, le Seigneur se rend présent de manière plus sensible. Il ponctue sa présence par des marques de sa fidélité, des marques peut-être ténues, bien réelles. Pour Élie, ses rendez-vous quotidiens avec la nourriture qu'apportent les corbeaux sont certainement chaque jour une marque qui lui rappelle « Mais le Seigneur est là, il veille sur moi, c'est bon. » Et c'est encore mieux qu'Israël au désert. La manne, c'était le matin seulement, là il y en a matin et soir. Et un repas un peu plus diversifié avec la viande et le pain. Comment douter de la présence de Dieu, de ses soins, de sa fidélité? Je crois que nous pouvons faire, nous aussi, à notre mesure, des expériences assez semblables, d'isolement et de dépendance. Certains aînés, après avoir été actifs, se découvrent loin de la vie qui s'agite et qui se court de tous côtés. Et il y a là aussi des ressources de présence de Dieu, d'intimité à découvrir dans ces circonstances. Il peut arriver que ce soit la maladie qui survienne et qui oblige elle aussi à des passages que l'on ne traversera que seul. Et là aussi, dans cette solitude de ce qu'il faut traverser, il y a place pour vivre quelque chose de ce qu'Élie vivait. Il peut y avoir aussi parfois la douleur ou le souci pour un être cher qui, soudain, à un moment donné, nous rend étrangers comme ça au cours normal des choses et nous éloigne de l'insouciance que d'autres peuvent partager avec lorsque la vie va mieux. Et là aussi, ce sont des solitudes, mais dans lesquelles le Seigneur peut nous rencontrer. Il peut y avoir peut-être une grosse déception, un objectif que l'on n'a pas atteint et qui semble nous isoler, loin de ceux qui semblent toujours tellement bien avec eux-mêmes ou qui réussissent toujours. Nous avons tant de situations où nous pouvons nous retrouver comme cela un peu isolés. Et Dieu ne nous épargne pas ce genre de situation. Mais comme Élie, si nous traversons ce genre de situation, nous avons alors à découvrir les ressources de Dieu pour nous, car il y en a. Nous avons à découvrir à ce moment-là les fidélités de Dieu pour nous. Nous avons besoin à découvrir la présence de Dieu de manière plus sensible. Nous avons à découvrir un dialogue profond, une entière, le secours que Dieu veut donner au cœur même de ce qu'il faut traverser. Et le témoignage de beaucoup est que par ce genre de situation, Dieu nous forme, Dieu nous approfondit dans le seul à seul avec lui. Élie a vécu aussi ce temps de seul à seul avec Dieu. Nous avons besoin de le faire aussi. Dieu permet parfois des circonstances qui nous amènent à le faire d'un peu plus près. Ne redoutons pas ces moments, mais au contraire, cherchons ce que Dieu a nous y apporter. Élie donc, jour après jour, se trouve là, proche de son Dieu, trouvant aussi les ressources au torrent que Dieu lui a donné, ce torrent qui lui rappelle les soins, la fidélité de Dieu envers lui. Mais voilà qu'un matin, il est bien obligé de constater que l'eau coule moins vite que la veille. Et quelques jours après, il est bien obligé de constater que le niveau a encore baissé. Et voilà certaines pierres qui autrefois étaient immergées et qui maintenant sortent de l'eau. Il faut dire que la sécheresse rage partout autour et le torrent de Dieu baisse et se retrouve à sec. Alors voilà le genre d'histoire qu'on n'aime pas du tout trouver dans la Bible. Voilà le genre d'histoire qu'on n'aime pas du tout trouver dans la Bible. Le torrent de Dieu est plein d'eau. C'est ça ce que nous voulons entendre toujours. Mais que les ressources promises par Dieu puissent à un moment donné s'amenuiser après avoir été données. Que les ressources données puissent être dépendantes de certaines circonstances ou de certains aléas. Cela, c'est difficile à accepter. C'est difficile à concevoir même. Dieu commence à faire du bien, comme il le fait là, avec ce torrent. Et il faudrait ensuite constater les limites de ce bien que Dieu a commencé de faire. Pas facile à intégrer. Et c'est pourtant ce que vit Élie ici. Que pouvons-nous apprendre de ce récit? Une première chose est importante et précieuse. Devient sec, pas le signe d'une désapprobation de Dieu à l'égard d'Élie. Élie est là parce qu'il a obéi à Dieu. Élie est dans ces circonstances parce qu'il a obéi au Seigneur. Et tout indique qu'il est resté attaché au Seigneur pendant tout le temps où il était là. Si les ressources du torrent s'épuisent, si ce qui était pour lui le signe de l'action et de la fidélité de Dieu décroît et disparaît, ce n'est pas parce qu'Élie s'est éloigné de Dieu. Et je crois que ça, c'est important pour nous de le recueillir. Parce que notre réflexe, si quelque chose de ce genre se passe, c'est toujours de chercher la faute quelque part. De chercher la faute en nous, ou de chercher la faute dans tel autre. Si les choses tournent mal, ou si les choses s'inversent parce que Dieu, qui avait agi dans une certaine façon, manifeste autre chose. Ce n'est pas forcément le cas. Et ce récit nous le dit, et c'est important de le recueillir, vraiment. Cela permet d'être devant Dieu honnête, et de se dire, si vraiment je ne me suis pas éloigné de toi, je n'ai pas à chercher, à inventer quoi que ce soit. Non, je peux être là en toute honnêteté. En fait, si on essaye de réfléchir à cette situation, c'est tout l'inverse qui se passe qu'une sorte de punition d'une désobéissance. Le torrent est à sec, pourquoi? Parce que Dieu a écouté Élie. Parce que Dieu a accompli sa parole. Il n'y a plus de pluie dans tout le pays. Dans tout le pays, y compris la région de Kérit. Et on découvre ici une autre façon d'agir de Dieu. C'est que Dieu ne soustrait pas forcément ses enfants au sort commun. Dieu ne nous soustrait pas forcément au sort commun. Être enfant de Dieu, c'est parfois, et sous certains aspects, être vraiment miraculeusement soutenu, protégé. Mais c'est aussi parfois, et sous d'autres aspects, vivre des solidarités et être solidaire des aléas que connaissent ceux qui nous entourent. Élie est solidaire de ce que connaît son peuple avec la sécheresse. Nous existons en Adam et nous existons en Christ. Et ces deux aspects forment notre réalité. En Adam, par exemple, nous allons tous mourir, même si en Christ nous ressusciterons. Et l'un ne supprime pas l'autre, même si le dernier mot de l'histoire, c'est Jésus-Christ qui le donne. Élie, comme les autres croyants contemporains en Israël, Élie subit lui aussi la loi de la sécheresse qui s'abat sur le pays. Et il sera un témoin que Dieu pourvoit vraiment, que Dieu donne des ressources, oui, mais il connaîtra aussi certains des aléas, certaines des angoisses liées à cette situation qui s'abat sur le pays. Il n'est pas arraché à la situation. Il ne la survole pas de haut, protégé de tout. Mais c'est de l'intérieur qu'il va vivre les choses et qu'il pourra rendre témoignage à Dieu et que Dieu s'attestera aussi pour lui. Et Dieu a besoin, rappelons-le, de témoins qui puissent dire, au milieu de la disette, le Seigneur garde des ressources. Au milieu de la disette, on peut lui faire confiance. Des témoins qui peuvent dire, pour moi aussi, ça a été dur de faire face à la situation comme pour vous, mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur nous a abandonnés. Des témoins qui puissent dire aussi, Dieu ne fait pas forcément les choses comme nous le voudrions, mais ce n'est pas pour autant qu'on va l'abandonner. On reste attaché à lui quand même. Élie n'est pas le seul croyant à avoir vécu cela. Jérémie, Ézéchiel ont vécu la déportation en Babylonie ou en Égypte pour Jérémie. Ils ont dû être témoins de Dieu dans ces circonstances-là. Et suprêmement, notre Seigneur Jésus lui-même a été solidaire. Il a endossé notre humanité tout entière. Ce n'était pas un cadeau pour lui, mais il l'a fait. Et il s'est solidarisé avec nous jusqu'à la croix, jusque dans la souffrance, en portant notre péché. Il s'est solidarisé jusqu'à nous, jusqu'en devenant péché pour nous. C'est l'expression les plus fortes de l'Écriture sur ce que Jésus a enduré. Et jusqu'à la dernière seconde, sur ce terrible chemin, il s'est solidarisé en nous, avec nous. Les chemins de Dieu passent aussi par là. Dieu veut des témoins qui soient solidaires de la réalité humaine, capable de dire l'attachement à Dieu comme le soutien de Dieu dans ce qui fait le lot commun des hommes, capable de dire le soutien de Dieu et l'attachement à Dieu même dans ce qui fait le lot commun des hommes. Nos frères et sœurs qui vivent des maladies lourdes et qui restent attachés au Seigneur font partie de ces témoins-là. Et ils manifestent à leur façon et dans leur situation la différence que Dieu apporte, qu'apporte la foi, le soutien de Dieu, l'espérance qui demeure, la force. Nos frères et sœurs qui tiennent bon dans leur foi et dans leur fidélité, malgré parfois des durs ou des incompréhensibles revirements de leur situation, sont eux aussi des témoins puissants de la loyauté envers le Seigneur. Et il nous parle, et il nous aide, lorsque pour si peu parfois, nous serions tentés d'abandonner notre fidélité à la moindre difficulté. Dieu a besoin de ces témoins fidèles dans les situations difficiles, et il y a un témoignage à rendre. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas donné à Élie un puits sans fond, sur une nappe phréatique suffisante à tenir 20 ans sans le moindre souci, alors que tout le monde partout autour de lui manquait de tout. Il a préféré se manifester comme le Dieu qui pourvoit, mais qui pourvoit au cœur de la fragilité humaine et au cœur des aléas, des situations humaines. N'ayons pas peur de cela. N'ayons pas peur de cela. Car notre Seigneur garde toutes ses ressources pour nous dans ces situations où il veut que nous marchions parfois. Il n'est pas à court de moyens. Il ne nous abandonne pas. Car nous le voyons ici, une fois le torrent à sec, Dieu a une parole pour Élie encore. Lève-toi, dit-il, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une femme, une veuve, de te nourrir. Tiens, j'ai ordonné, comme pour les corbeaux, au début. Le Seigneur n'est pas à bout de ressources pour nous, même si notre torrent se tarit. Ayons confiance dans ces ressources de Dieu. Restons constants. Restons attachés au Seigneur. Cherchons nos ressources en lui. Là où nous sommes, dans ce que nous traversons, puisons toutes nos forces en lui. Sa fidélité saura nous rejoindre, peut-être de manière surprenante. Hein? Ici, il faut partir ailleurs. Il faut aller à Sarepta plutôt qu'à Kérit. Dieu n'est pas lié à une situation, à un équilibre donné. Mais il reste fidèle. Et comme le disait si bien Élie au roi Achab, le Seigneur, l'Éternel, est vivant. Est vivant. Amen.